Eh bien, chers amis, la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale des Canadiens français, tombait un vendredi cette année, ce qui procurait aux gens de la province de Québec une fin de semaine de 3 jours. C'est pourquoi le journal Verdemain invita ses lecteurs qui le pouvaient à un pèlerinage au sanctuaire des Saints-Martyrs canadiens. On y ferait la marche hebdomadaire des chapelets le samedi 25 juin à Midland, Ontario, 425 000 de Montréal. C'est dans le comté actuel de Simcoe, l'ancienne Huronie, pays arrosé par le sang de 5 des 8 martyrs canonisés, après avoir été le champ de 25 années de labeur missionnaire au milieu de difficultés sans nombre et de souffrances de toutes sortes. Les pèlerins, dont plusieurs avaient fait des 400, 500, 600 000 et plus dans leur journée, sont assemblés le vendredi soir à 7 heures dans l'église de La Fontaine pour la messe de Saint-Jean-Baptiste, dite par le père Marchildon, curé de cette paroisse. Après la messe, courte réunion dans la salle paroissiale, gracieusement mise à notre disposition par le bon curé, pour toutes nos séances de cette fin de semaine. Les pèlerins trouvent tous un bon accueil dans les familles pour les 2 nuits de leur séjour dans la région. Le samedi matin, nous sommes à Midland, reçus à 10 heures par les pères jésuites gardiens du sanctuaire des Saints-Martyrs. Entrée solennelle à l'église, après en avoir fait le tour en procession, avec la croix et le révérend père MacAffrey en tête, tous les pèlerins portant un drapeau créditiste ou un fanion de Saint-Michel. Une autre père jésuite dit la messe des Saints-Martyrs et, quoique de langue anglaise, nous fait l'homélie en français. Après la messe, le père MacAffrey prend encore la tête de notre marche des chapelets depuis le sanctuaire au fort Sainte-Marie, qui fut pendant 10 années, de 1639 à 1649, le site de la résidence centrale des missionnaires de la Huronie. Nous visitons ces lieux, actuellement reconstruits sur le même style, même dimension et même division qu'en ces années-là. Nous prions avec émotion sur la tombe où fut déposé le corps mutilé de Saint-Jean de Brébeuf le 21 mars 1649, 5 jours après son terrible martyre aux mains des barbares Iroquois. L'après-midi, rendez-vous à Caragoa, dans la paroisse de La Fontaine, au lieu où fut célébrée la première messe en Ontario. Cette messe fut dite par le père Le Caron, franciscain récollet, le 12 août 1615, en présence de Champlain, de 14 autres Français et d'environ 600 sauvages qui ne connaissaient encore rien du message du Christ. Une croix de granit a été érigée en cet endroit pour commémorer l'événement. Nous faisons dans ce champ une deuxième marche des chapelains. Le reste de la journée est bien rempli par 2 assemblées à La Fontaine avant et après souper. Le lendemain, dimanche, les pèlerins entendent la messe dans l'une ou l'autre des paroisses où ils ont été hébergés par la population hospitalière, La Fontaine, Penetang, Perkinsville, Midland. Puis, c'est le chemin du retour, tous spirituellement enrichis par ces journées de communion à travers 3 siècles avec les grandes armes de patriotes, d'apôtres, de martyrs qui furent les pionniers de l'Évangile en plein cœur d'un pays qui allait devenir l'immense Canada d'une océan à l'autre. Nos pèlerins ont donc marché sur le sol où ces saints avaient travaillé et souffert. Mais s'il y a les lieux, il y a aussi l'époque. Et pour avoir une idée plus exacte de ce que fut la vie des apôtres de la Huronie, il faut se représenter à l'esprit les conditions de ce temps-là, totalement différentes de celles des pèlerins de 1966. Lorsque le père Le Caron, franciscain récollet, pénétra en Huronie pour la première fois en 1615, Québec n'était encore qu'une petite bourgade habitée par moins de 10 familles, protégée par un fortin entouré d'un fossé. Rien encore aux Trois-Rivières, rien dans l'île de Montréal. Il fallait attendre encore 17 années avant la fondation de Ville-Marie. L'ordre mendiant des Récollets étant trop pauvre pour soutenir une mission si lointaine et si dénuée de tout, les Jésuites prirent la relève en 1625. Le père Jean de Brébeuf pénétra en Huronie en 1626, étudia la langue, fit quelques catéchumènes. Mais les Kirk, traîtres français passés au service de l'Angleterre, s'étant emparé de Québec en 1629, Brébeuf fut expulsé du pays et dut repasser en Europe. Il revint en Nouvelle-France avec d'autres jésuites 4 ans plus tard, après que Québec eut été rendu à la France. Il retrouvait ses Hurons en 1634. Un voyage de Québec à la baie géorgienne, en ce temps-là, ne ressemblait en rien à ce qu'ont connu nos pèlerins de juin dernier. Pas de route, ni de moyens rapides de transport. Il fallait remonter le fleuve Saint-Laurent, depuis Québec à la rivière des Prairies, puis l'Outaouais jusqu'à Mattawa, toujours à contre-courant. De là, remonter la rivière Mattawa, puis, par une alternance de lacs et de forêts, atteindre le lac Nipissing. Du lac Nipissing, la rivière des Français conduisait enfin à la baie géorgienne, mais il restait encore près de 100 000 de canotage à faire pour redescendre jusqu'à la presqu'île Huron de Penetanguishen. Ce trajet de 900 000 devait se faire en canot indien. Lorsqu'on tombait dans une eau insuffisamment profonde pour le canot chargé, il fallait descendre dans l'eau et aller à bras. Et lorsqu'on arrivait à des chutes ou à des rapides, il fallait accoster au rivage et transporter à bras le canot et tous les bagages jusqu'au-delà des rapides. Ces portages pouvaient nécessiter 2 ou 3 voyages à pied, selon la charge, sur un rivage pierreux, raboteux ou coupant, parfois sur des distances de 2 à 6 000. Lors d'un de ces voyages, le père Jean de Brébeuf compta 35 portages et plus de 50 traînages. Il fut un jour abandonné par ses guides et dut se dépouiller seul avec l'aide du ciel pour le reste de son voyage. Le père de Brébeuf crut utile de donner une description de ses voyages dans une lettre à ses supérieurs de France, afin que ceux-ci mettent les aspirants missionnaires au courant de ce qui attendait leurs ailes. Ce n'était rien d'humainement attrayant, même si le missionnaire avait des sauvages bien disposés pour l'accompagner dans un trajet qui durait au moins 3 semaines. Le père de Brébeuf écrit: « La facilité des sauvages n'accourcit pas le chemin, n'aplanit pas les routes, n'éloigne pas les dangers. Soyez avec qui vous voudrez, il faut vous attendre à être tout au moins 3 et 4 semaines par les chemins, de n'avoir pour compagnie que des personnes que vous n'avez jamais vues, d'être dans un canot d'écorce en une posture assez incommode, sans avoir la liberté de vous tourner d'un côté ou d'autre, en danger 50 fois le jour, de verser ou de briser sur les roches. Pendant le jour, le soleil vous brûle. Pendant la nuit, vous courez le risque d'être la proie des maringouins. Vous montez quelquefois 5 ou 6 sauts, 5 ou 6 portages donc, dans une journée, et n'avez pour tout réconfort le soir qu'un peu de blé battu entre 2 pierres et cuit avec de belles eaux claires. Pour lit, la terre est bien souvent des roches inégales et raboteuses, d'ordinaire point d'autre abri que les étoiles, et tout cela dans un silence perpétuel. Si vous vous blessez à quelque rencontre, Si vous tombez malade, n'attendez pas de ces barbares d'assistance, car où la prendraient-ils? Et si la maladie est dangereuse et que vous soyez éloigné des villages qui y sont fort rares, je ne voudrais vous assurer que si vous ne pouvez vous aider pour les suivre, ils vous abandonnent. Comme la lecture de ces lignes humilie nos mollesses et nos recherches incessantes de confort toujours plus grand. Lorsque Champlain ouvrit à la France la terre canadienne, il y trouva des indigènes de mœurs nomades, comme les Algonquins et les Montagnais, qui vivaient de la pêche, de la chasse et de fruits de plantes sauvages. D'autres, les Hurons, étaient plus sédentaires, vivant en villages organisés. Aux produits de la pêche et de la chasse, ils en ajoutaient, tirés du sol, surtout du maïs, blé d'Inde, des courges, des citrouilles. Comme leur méthode de culture était fort primitive, leur sol s'épuisait et ils devaient changer de lieu tous les 10 ou 12 ans. Et les missionnaires devaient se déplacer avec eux, abandonnant ainsi des églises ou chapelles en service pour aller recommencer ailleurs. C'est pour cela qu'après une dizaine d'années de ces expériences, le supérieur de la mission Huron décida la construction d'une résidence centrale mieux équipée, avec une ferme mieux cultivée qui servirait de modèle aux sauvages, protégée contre les attaques de tribus ennemies et d'où les missionnaires pourraient rayonner pour établir des postes qui couvriraient les 32 bourgades de la Huronie. La nation Huron vivant dans cette région comptait alors environ 25 000 personnes. Plus au sud, dans l'actuel État de New York, vivaient les Iroquois, de race apparentée aux Hurons, eux aussi mi-cultivateurs, mi-chasseurs. Mais Hurons et Iroquois étaient alors frères ennemis. L'amitié des Hurons pour les Français fit des Iroquois des ennemis des colons venus de France. Les Iroquois furent d'ailleurs excités dans cette voie et armés par les colons hollandais et protestants de Manhattan, New York, et par les colons, eux aussi protestants, de la Nouvelle-Angleterre. Des incursions iroquoises étaient toujours à craindre pour les Français établis sur les rives du Saint-Laurent, mais même les établissements plus au nord, comme ceux de la Huronie, n'étaient pas à l'abri des entreprises guerrières de ces sauvages. Malgré le dévouement des missionnaires et les sentiments amicaux des Hurons, les conversions furent d'abord lentes à venir. Les seuls baptisés des premières années furent des enfants ou des vieillards au seuil de la mort. C'est seulement en 1637 que pour la première fois put être baptisé une adulte en santé. Mais d'autres suivirent et les nouveaux chrétiens se firent les auxiliaires des missionnaires pour en gagner d'autres autour d'eux. Dans une prochaine émission, je continuerai ce sujet avec quelques notes sur la fin de chacun des 8 martyrs canadiens canonisés.